Jean-Éric Brana, bonjour.
Bonjour.
Donald Trump peut-il être battu en 2020? C'est une des premières interrogations que vous posez en ouverture de ce nouvel ouvrage. Et s'il gagnait encore, alors quels sont les atouts du président sortant?
Ah, les atouts sont très nombreux et vous avez vu que sur 300 pages, je les passe en revue parce que effectivement, aujourd'hui, on va le dire assez clairement, c'est lui qui a la cote. D'abord, c'est le président sortant et aux États-Unis, être le sortant, c'est un très gros avantage parce que on a sur la stature du président, mais surtout on a la notoriété. Or, la notoriété aux États-Unis, c'est ce qui vous fait élire quasiment. Le pays est tellement grand et cette fois-ci, en plus, il y a tellement de candidats que pour avoir la chance que quelqu'un prenne votre nom le jour du vote, eh bien, il faut d'abord qu'il le reconnaisse. Et c'est évidemment l'avantage Donald Trump. Ensuite, bien sûr, le très gros avantage dont tout le monde parle actuellement sont les très bons chiffres qu'il y a au niveau de l'économie. L'économie, c'est ce qui fait tout, expliquait Bill Clinton en son temps. Et depuis, cette légende est tenace. Donc, on va partir sur cette légende pour se dire qu'il pourrait être réélu. Moi, je pense que cette fois-ci, la légende risque de tomber et que ça risque d'être un peu plus compliqué.
C'est pas nécessairement gagné finalement.
Non, c'est pas nécessairement gagné. Alors encore dans les avantages et pour arriver à ces désavantages, on peut parler de ses supporters, cette cote de popularité qui est entre 40 et 43%. Et j'ai maintes fois dit à votre micro que cette popularité ne bougeait pas. Et ça, c'est un phénomène qu'on n'a jamais observé avec aucun président des États-Unis. Donc on a parlé de stabilité de sa base hein, qui est en béton armé. Et en même temps, on va commencer à regarder ça de façon plus fine aujourd'hui et on va commencer à s'apercevoir que s'il y a stabilité, il y a aussi stagnation, car par exemple l'affaire Mueller nous l'a montré de façon très exemplaire, alors qu'il a été exonéré de charges très lourdes, à savoir conspiration contre les États-Unis, ce qui n'est pas rien, eh bien il n'a pas gagné 1% dans les sondages à la suite de cette exonération, même s'il y a une polémique derrière, ça n'explique pas en tout cas que sa cote ne décolle pas, mais il y a un phénomène aujourd'hui dans la société américaine, c'est que 52 à 56% des Américains le rejettent, quoi qu'il fasse, n'écoutent pas ce qu'il dit. Et ça va devenir un vrai handicap pour Donald Trump. C'est la première des raisons que je mettrai pour expliquer que certainement il ne sera pas réélu.
Alors côté démocrate, ça se bouscule au portillon, un peu comme chez les républicains d'ailleurs en 2016. Et vous écrivez, ça va être un jeu de massacre.
Et écoutez, chez les républicains, ça a été un jeu de massacre. Ils étaient 17, chez les démocrates, ils sont 24 et rien n'exclut qu'il n'y en ait pas encore qui arrive. Le jeu de massacre, en réalité, a déjà commencé puisque les jeunes n'arrivent pas à émerger. Ils se font de l'ombre les uns les autres. Comment voulez-vous distinguer aujourd'hui entre un Jay Inslee qui n'est plus tout jeune et un Seth Moulton qui est vraiment plus jeune ou un Bennett qui est vraiment très jeune? Pour la plupart des Américains, ce sont de parfaits inconnus. Donc très rapidement, le jeu va se jouer à 7 ou 8. Ceux qu'on connaît en réalité, qui ont déjà une stature nationale ou un début de stature, ou qui ont réussi à émerger comme Pete Buttigieg, qui était un vrai inconnu pour le coup et qui lui a réussi le hold-up du siècle dans cette campagne en tout cas.
Et ce sont des idées qui sont parfois très à gauche. Ça ne peut pas intimider les électeurs indépendants qui seront importants lors de cette élection?
Bien sûr, c'est ça la vraie difficulté pour ces électeurs qu'on dit progressistes aux États-Unis. Donc on pense bien sûr à Bernie Sanders, qui est le plus à gauche de tous, si on veut comparer un petit peu à la France. Elizabeth Warren, qui a également des idées très avant-gardistes, hein, notamment de taxer les plus riches, de redistribuer, enfin des choses qui ne se faisaient pas. C'est effectivement quelque chose qui va rebuter certains indépendants qui n'ont pas envie que ça aille aussi loin, parce que les indépendants sont plutôt centristes généralement. Donc là, on voit que Joe Biden a vraiment de vraies chances de pouvoir les séduire, lui, puisqu'il est quand même le seul identifié très au centre. Il fait d'ailleurs une campagne très différente de tous les autres candidats en essayant de ramener à lui les électeurs non seulement indépendants mais également républicains, puisqu'il y a encore beaucoup de républicains qui n'aiment pas Donald Trump et qui rechignent à voter pour lui. On va dire, pour faire simple, tout ce qui gravitait autour de la famille Bush ou de Romney, qui sont effectivement prêts à traverser le Rubicon et aller vers un démocrate qui leur donnerait des gages qu'on va revenir à un monde ancien, qu'on va retravailler ensemble. Et c'est à peu près ce que promet Joe Biden aujourd'hui. La difficulté, c'est qu'il va se couper en faisant cela à des plus jeunes qui veulent qu'on renverse la table, qui veulent passer un nouveau monde. Et c'est là où Pete Buttigieg, par exemple, émerge joyeusement parce que lui propose ce programme-là.
Merci Jean-Éric Brana.
Je vous remercie.